crois qu'il est 7 heures, temps universel, n'est-ce pas, en Afrique. Le Monde aujourd'hui, édition spéciale du mercredi 9 novembre 2016, consacrée aux élections présidentielles et législatives d'hier, mardi 8 novembre 2016. Hillary Clinton et Donald Trump, rien n'est joué pour le moment, bien que M. Trump soit en tête, le candidat républicain face à la candidate démocrate. Idrissa Seydoudia au micro, en studio, en compagnie de Timothée Donangmaï. Alors, Nicolas Pinault, tout de suite de New York. Nicolas ? Du nouveau ?
Oui, rebonjour. Eh bien, écoutez, les partisans qui commencent à se rassembler, à se faire entendre pas loin du Hilton, ici à Times Square, on est évidemment sur Manhattan. Et surtout, les chiffres qui tombent et qui continuent de tomber, on rappelle que Voice of America, en partenariat avec l'agence de presse AP, compile les résultats. Et l'agence AP qui donne l'état de la Pennsylvanie et les 20 grands électeurs à Donald Trump, et donc sur ce décompte qui n'est encore que provisoire, on aurait 264 grands électeurs pour Donald Trump qui se rapprocherait évidemment de la barre fatidique des 270. Mais pour le moment, encore une fois, aucun des deux candidats n'a franchi cette barre. Et je le disais, ça s'anime du côté du Hilton ici. On a même vu parfois quelques échanges assez vifs entre finalement des partisans de Donald Trump et des partisans d'Hillary Clinton. Mais pour le moment, tout ça reste bon enfant. Mais en tout cas, les partisans de Donald Trump qui sentent que peut-être leur moment est venu et qui commencent à se faire entendre ici dans les rues de New York.
Oui, Nicolas, il faut dire que lors de notre précédente demi-heure, un de nos invités, René Lecq, qui a ses sources au sein du Parti démocrate, nous avait dit que là-bas, ils avaient concédé la Pennsylvanie à Donald Trump. Bien entendu, il faut attendre que ça soit confirmé. Alors, Jean-Roger Bion est de nouveau en studio. Jean-Roger ?
Alors, beaucoup de chiffres, mais disons que le républicain Donald Trump semble donc en position de remporter l'élection présidentielle américaine et pour l'emporter devenir président de la première puissance mondiale, disons-le. Les deux candidats devraient franchir le cap crucial de 270 grands électeurs, Nicolas Pinault l'a dit. Au moment où nous parlons, Trump dispose, selon les résultats consolidés par VOA Afrique, de 244 grands électeurs contre 215 à Madame Clinton. C'est ce que notre station annonce pour le moment.
Combien ?
264. Oui, 264, c'est les tout derniers chiffres qui viennent de
avec
tomber.
Avec les chiffres de AP et de la Pennsylvanie.
Vous avez l'ordinateur devant vous, je vous concède ce chiffre. Eh bien, les Américains votaient aussi pour renouveler 34 des 100 sièges du Sénat à Washington et la totalité de la Chambre des représentants, dont les républicains ont conservé la majorité. Disons aussi que le sénateur Marco Rubio, ancien rival de M. Trump pour primaire, a conservé son siège de sénateur en Floride. Et puis, en marge de l'élection présidentielle, les Américains se sont prononcés aussi sur une série de référendums, notamment sur le cannabis et d'autres sujets dont je vais vous parler. La marijuana pour commencer. La Californie est devenue le 5e État à autoriser l'usage récréatif de la drogue, après le Colorado, l'Oregon, l'Alaska et l'État de Washington, ainsi que la capitale fédérale. La Floride est par ailleurs le premier État du Sud à adopter un programme de marijuana médicale, déjà légal dans 25 États de l'Union. Elle a été imitée par le Dakota du Nord, l'Arkansas pourrait suivre, mais le vote, disons-le, était serré. On a parlé aussi d'armes à feu, Idrissa Seydoudia. La Californie a déjà doté des lois parmi les plus restrictives sur les armes à feu aux États-Unis, a ajouté à son arsenal législatif l'obligation de passer une vérification d'antécédents judiciaires pour pouvoir acheter des munitions. On a aussi parlé de peine de mort. Trois États votaient sur ce sujet. Les électeurs d'Oklahoma ont voté pour renforcer la peine de mort, l'inscrivant dans la Constitution, et le Nebraska l'a rétabli. Les Californiens devraient se prononcer sur deux mesures contradictoires. L'une qui visait à interdire la peine de mort a été rejetée à 55,4% des votes d'après un décompte provisoire, et une autre visant à en accélérer la procédure a été adoptée. Le grand État de l'Ouest américain détient donc le couloir de la mort le plus peuplé des États-Unis avec 740 condamnés. Et puis l'euthanasie, le Colorado a légalisé une mesure autorisant le suicide médicalement assisté pour les personnes malades en phase terminale. L'euthanasie pour les malades n'ayant plus que quelques mois à vivre était déjà autorisée en Californie, l'Oregon, dans le Montana, le Vermont et l'État de Washington. Il y a aussi le salaire minimal. Le salaire minimal, on nous parle d'argent.
Qu'on appelle le SMIC de façon générale.
Le Maine, l'Arizona, le Colorado et l'État de Washington ont adopté un relèvement du salaire minimal entre 12 et 13,50 dollars à l'heure. Les États de New York ou de Californie ont déjà adopté des mesures pour le faire passer à 15 dollars d'ici 2022.
Merci. Alors, vous avez déjà dit que ça ne va pas changer au niveau du Congrès et que, comment dirais-je, les démocrates n'ont eu qu'un siège de plus pendant cette élection. Donc, le Sénat reste entre les mains des républicains. La même chose pour la Chambre des représentants. Alors, je viens de voir devant moi, là, en regardant la télé, que Hillary Clinton ne parlera pas ce soir. Est-ce que nous avons Tatiana à New York ? Pas du tout. Alors, on va vérifier cette information avec Tatiana en attendant Timothée.
Voilà, nous allons retourner à Reno, dans le Nevada, où séjourne un groupe de confrères, consoeurs venus d'Afrique pour suivre ces élections américaines. Et nous avons au téléphone notre ami Swaibou Nombré, qui est du Burkina Faso. Bonsoir Swaibou.
Et bonsoir, comment ça va?
Oui, ça va, c'est Timothée Dounangmaï ici à Washington. Alors, Swaibou, vous avez suivi la campagne électorale et maintenant vous êtes en train de suivre la présidentielle. Quelle est votre réaction?
C'est une réaction d'étonnement, puisque au cours de la campagne, on a suivi un peu la campagne étant au pays et même quand on est arrivé aux États-Unis, les gens qu'on a pu rencontrer. Tous les républicains, ils étaient un peu déçus et eux-mêmes étonnés de voir Donald Trump, comment dire, passer d'abord les primaires et se retrouver en face de Hillary Clinton. Ils disaient ouvertement qu'ils vont pas voter, Trump. On voit qu'à l'arrivée, c'est pas ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est avec étonnement et grande surprise. C'est donc dit qu'on ne peut pas se fier, au sondage.
Qu'en est-il du déroulement de la campagne électorale?
Oui, à mon avis, la campagne s'est passée un peu comme en Afrique. Hein, c'est passé un peu comme... où les candidats se rendent dedans. Les candidats, voilà, ils n'hésitent pas, à s'envoyer à s'insulter si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, il profite des failles de l'autre pour pouvoir avoir des électeurs. Avec, le scandale de mail d'Hillary Clinton et les déclarations, de Trump. En fait, en un mot, je l'ai dit plusieurs fois, cette campagne s'est passée comme si vraiment c'était une campagne à l'africaine, quoi.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre dans un bureau de vote?
Oui, ce matin, nous sommes rendus dans un bureau de vote à Reno, dans l'État du Nevada. Et on a vu un peu comment se passait le vote. C'est vrai qu'il y avait un engouement, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, on n'a pas remarqué les jeunes. On n'a pas remarqué les jeunes. C'est ça qui m'a beaucoup... que j'ai beaucoup remarqué.
Et du point de vue de l'organisation même, du personnel électoral, comment les choses se passaient? Qu'est-ce que vous avez constaté?
Non, pour ce qui concerne l'organisation des élections, en fait, pour ce que j'ai remarqué ce matin sur le terrain, en fait, il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu d'incident majeur. Bon, voilà, à part la fusillade qui a eu lieu, je ne sais pas, si je ne me trompe pas, en Californie. Non, oui, à Reno, pour le site qu'on a visité, c'était dans un établissement, un high school. Vraiment, tout se passait bien, tout le monde vraiment était à l'heure. Et, bon. Voilà, c'est pas un peu comme ce qui se passe, pas que je dénigre un peu ce qui se passe en Afrique, mais voilà, mais vraiment, sur le plan de l'organisation, vraiment, je tue le chapeau, aux organisateurs.
Idrissa ?
Merci Tim. Alors, pour donner rappeler les derniers résultats, on a 264 hein, pour Donald Trump, 215 pour Hillary Clinton, ça continue de bouger, n'est-ce pas, pour Donald Trump. On lui a donné l'État de Pennsylvanie, ce que nous avait déjà signalé René Lake. Professeur Edgar Colley, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis toujours là.
Alors, 264, hein, c'est ce que, comment dirais-je, Donald Trump a. Est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est cuit, si je puis dire?
On n'est pas encore, n'est-ce pas, au chiffre magique de 270, mais il s'approche sérieusement à 270.
Mais il y a l'Arizona, il y a, comment dirais-je, l'Alaska, et en général, ce sont des États traditionnellement républicains.
Oui, là, il n'y a pas de doute. Et il n'y a aucune chance qu'il aille remporter l'Arizona et l'Alaska. Donc, si Donald Trump remporte ces deux États, au moins s'y attend, le total sera à 270 et il sera le président des États-Unis. Et on se demanderait, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi cette campagne, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau. Mais il faut quand même accepter le fait que il a réussi à centraliser autour de sa personne un certain nombre d'idées, un certain nombre de faits qui n'ont pas nécessairement été contradictoires à ce qui se passe dans le pays, mais qui ont, n'est-ce pas, galvanisé une partie de la base républicaine. Et au final, on se retrouve avec Donald Trump qui pourrait, n'est-ce pas, je ne peux pas dire qu'il est déjà président, mais qui a de fortes chances d'y arriver, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez des États comme la Pennsylvanie, qui a toujours été, si j'imagine depuis la présidence George Bush à Gore, ou Wisconsin, qui est encore un État compétitif, considérez que le message de Donald Trump a été très reçu, très bien reçu par une certaine population. Et donc, nous sommes à un niveau, à un certain, comment dirais-je, nous sommes arrivés à un point où, oui, Donald Trump, la présidence, une potentielle présidence de Donald Trump n'est plus une potentialité, mais presque une réalité.
Alors, restez avec nous, professeur. Nous allons retourner à New York pour y retrouver Tatiana Mosso. Tatiana, je viens de voir sur le petit écran que Hillary Clinton ne s'adressera pas à ses partisans, ce soir, mais c'est déjà le matin ici.
Effectivement, elle ne va pas s'adresser à ses supporters qui déjà commençaient à quitter la salle un peu plus tôt, pessimistes. Il faudra attendre, je pense, encore dans la journée, plus tard dans la journée pour qu'elle intervienne. Il est possible qu'elle conteste, du moins que les démocrates contestent les résultats qui sont encore provisoires. On attend que les médias américains qui continuent de suivre du côté de Donald Trump puissent donner les résultats des 6 derniers États qui restaient. Mais ici, on va dire que c'est plié. Les supporters sont en train de partir, les médias sont en train de quitter la salle et vraisemblablement il faudra s'attendre demain à ce que le camp de Hillary Clinton soit beaucoup plus revienne un petit peu sur les résultats. C'est ce qu'on nous a laissé entendre du moins ce soir avant d'éteindre les lumières, et ici déjà tout est en train d'être rangé, c'est très vite et les gens ont la mine défaite et sont plutôt pessimistes et se disent que les prochaines heures vont être difficiles.
Merci, Tatiana. Timothée.
Professeur Colley, on avait beaucoup souligné l'aspect historique de la candidature de Mme Hillary Clinton, la première femme à être candidate d'un des principaux partis à une élection présidentielle. Et certains avaient pensé que les femmes se mobiliseraient pour l'aider à franchir ce pas décisif et arriver à la Maison-Blanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau?
Mais nous sommes devant une logique qui n'est pas nécessairement une logique. Première femme qui n'accumule pas un support immense de la part des femmes. Ensuite, ce qui aurait pu, dans d'autres cieux, être un acquis ou un aspect positif se retourne comme étant un défaut, cela veut dire qu'elle est une politicienne de carrière. Donc, une personne qui a une expérience au niveau de l'administration américaine. Alors, tous ces facteurs mis en commun avec cette idée qu'elle est malhonnête, les emails, la fondation Clinton, alors vous mettez tout cela ensemble, politiciens de carrière, des gens qui ne lui font pas confiance, et donc vous avez bien entendu ce phénomène où on ne peut pas, du moins une certaine catégorie de l'électorat américain, qui ne se sont pas, n'est-ce pas, résolus à voter pour Mme Clinton. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres cieux, on parle tout simplement de son expérience. Nous avons ici une candidate très expérimentée au niveau de la gestion de l'État. Cela n'a pas suffi, tout simplement parce que, évidemment, elle a voulu, bien entendu, être le suivi de la présence de Barack Obama. Et ceci n'a pas été nécessairement un atout au niveau de l'électorat républicain blanc conservateur. Et cela lui a coûté, je ne veux pas dire que cela lui a coûté la présidence, parce que nous ne sommes pas encore à un résultat définitif, mais les résultats que nous voyons aujourd'hui, cela lui a coûté un retard considérable qu'elle aura du mal à rattraper.
Merci, professeur. Et je rappelle à nos auditeurs que nous avons toujours avec nous, par téléphone, le professeur Ngemi Alengui, qui est historien, il est d'origine congolaise et il a enseigné à City College de New York, et notre ami René Lec, qui est consultant, journaliste, directeur du site Séné+. Et c'est un partisan d'Hillary Clinton, mais très, très, très réaliste. Ce soir ou ce matin. Alors, nous allons d'abord demander au professeur Ngemi Alengui si, par exemple, cette affaire du serveur et des emails privés et le FBI, la déclaration du directeur du FBI, si tout cela n'a pas du tout coûté à Hillary Clinton.
Oui, en partie, Idrissa, vous avez raison, parce que ce sont des choses sur lesquelles Donald Trump a insisté. Et ça comme on avait vu la réaction de Hillary avec ses partisans, il n'était pas content que le prosecuteur de FBI allait rouvrir ce dossier. Donc ça lui a coûté un peu, mais il y avait des parts et d'autres, des accusations, mais je ne sais même pas si c'est parce qu'Hillary n'a pas fait ce qu'elle devait faire ou bien parce qu'elle est une femme, parce que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, nous avons eu un cas comme ça en 1948, lorsque le républicain Thomas Dewey menait et personne ne pensait que le démocrate Harry Truman allait gagner. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui. Mais à la surprise de tout le monde, tous les sondages donnaient la victoire à Dewey, mais surprise de surprise, comme ce que nous voyons aujourd'hui, Harry Truman avait gagné. C'était deux hommes, ils étaient des blancs, ils étaient tous les deux des politiciens, des fins politiciens. Donc, ça dit que ces choses arrivent. Et évidemment, ceux qui vont étudier ces élections auront à donner plusieurs raisons qui vont essayer de justifier ou la défaite de Hillary Clinton ou la victoire de Donald Trump. Mais ces choses arrivent. Mais ce que vous avez soulevé, Idrissa, c'est vrai que ça a coûté à Hillary Clinton et même à Donald Trump, cette affaire de femme dont on sortait à gauche, à droite, qu'elle avait touché celle-là, elle avait dit ceci à l'autre. Ça aussi, ça a eu un effet. Donc, peut-être ces accusations se balancent. Mais alors, la question est de savoir pourquoi tous les pronostics, tous les gens, tous les sondages donnaient la victoire à Hillary Clinton, alors une victoire qui était vraiment insurmontable pour Donald Trump.
Merci.
C'est la question.
Merci, professeur. Je crois que, Tim, je vais, avant de vous passer la parole pour un de nos collègues qui se trouve à Reno, dans le Nevada, je voudrais demander, puisqu'on est en train de parler de Donald Trump et de Hillary Clinton, je voudrais demander à René ce qui explique franchement le manque de popularité de Mme Clinton, qui a consacré toute sa vie au service public.
Oui, Edressa, je me suis souvent posé la question. J'ai souvent fait référence à cet éditorialiste du Wall Street Journal, qui est une anti-Clinton, conservatrice, l'une des grandes idéologues du Parti républicain, et qui a écrit il y a quatre semaines, un éditorial au Wall Street Journal pour poser exactement cette question. Mais qu'est-ce que les gens ont contre Hillary Clinton? Et elle-même, qui avait annoncé qu'elle allait voter pour Hillary Clinton, disait qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un, ni un républicain, ni un démocrate, ni qui que ce soit, qui puisse articuler de manière rationnelle exactement ce qu'ils avaient contre Hillary Clinton. Moi, je crois que quelque part, la question du sexisme est un problème de fond. En lame de fond, je pense qu'il y a beaucoup de cette question-là. Vous savez, j'ai même le sentiment que peut-être que le racisme est plus facile à dépasser que le sexisme lui-même. Parce que je crois que le sexisme, il est soutenu par un certain nombre de facteurs. Cependant, des millénaires, les religions, y compris les religions révélées, il y a quelque part un statut différent de la femme par rapport à l'homme, quelle qu'elle soit du reste, hein, que ce soit les chrétiens, l'islam, même dans d'autres religions orientales. La culture, le mode de fonctionnement, même la biologie, la force physique de l'homme par rapport à la force de la femme, etc. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui, autour de nous, encouragent cela et qu'au fond, il y a peut-être un sexisme même inconscient que les gens ont. Moi, je vois, quand j'étais pendant... Je faisais la campagne, là, en Pennsylvanie, il y a encore 3-4 jours. Oui, Idrissa.
Oui, merci pour ce background, ces explications. Mais Timothée a aussi quelqu'un qui attend.
Oui, alors Idrissa, nous allons retrouver à Reno, dans le Nevada, ce groupe de journalistes africains venus ici aux États-Unis pour observer ces élections américaines. Nous avons en ligne de Reno Mariam Sagara, qui est une consoeur malienne. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Voilà Mariam, vous avez vécu la campagne électorale et maintenant les élections. Quelle est votre réaction?
Ok. Nous avons vécu les derniers jours de la campagne de Washington jusqu'à Reno. De toute façon, on a trouvé que à Reno, aussi bien qu'à Washington, tout le monde est d'accord pour voter pour Hillary. Mais notre surprise a été que aujourd'hui, c'est Donald qu'on a choisi. C'est ce que je n'ai pas compris.
Bon, il n'est pas encore choisi, il n'a pas encore gagné.
En tout cas, avant, même s'il n'a pas gagné d'abord, ce qu'on a suivi ici, ce que moi j'ai suivi jusque-là, je vois que c'est Donald qui, à la fin, qui va remporter. Je ne sais pas. Mon souhait est quand même que Hillary remporte.
Pourquoi?
Parce que ça va être l'histoire du siècle. Pour la première fois, une femme sera au pouvoir, au sommet. Ensuite, ça va faciliter les choses. Surtout avec les déclarations de Donald, vraiment, moi, j'ai peur. Si Donald gagne les élections, ça va poser problème.
Alors, vous avez vécu la campagne électorale. Et qu'est-ce que vous avez noté de particulier? Qu'est-ce que vous allez ramener comme souvenir de cette campagne au Mali?
J'ai pas bien saisi. Vous avez
J'ai dit, qu'est-ce que vous allez ramener comme souvenir de cette campagne électorale américaine au Mali?
Non, en tout cas, ce que j'ai vu, je sais que la campagne ici, elle est différente de notre campagne, de la campagne en Afrique. Ici, ce que j'ai pas surtout aimé, j'ai vu les deux candidats chaque jour sortaient des choses, les choses cachées, les choses, ils s'insultaient entre eux. Nous savons que les États-Unis, vraiment, ici aux États-Unis, la démocratie, c'est le top. Je ne sais pas pourquoi des candidats se mettent à sortir des choses qu'ils ne construisent pas. Ça, c'est un souvenir que je vais apporter et que je trouve vraiment que c'est pas bon. C'est pas bon pour la population et c'est pas bon pour le monde entier.
Eh bien, merci Mariam Sagara. Je rappelle que vous êtes journaliste malienne en séjour ici aux États-Unis. Idrissa?
Oui, Tim, je pense qu'il ne nous reste plus là que 4 minutes. Mais très rapidement, peut-être qu'il faudrait faire le tour avec le professeur Colli, le professeur Ngemiya Lengui et notre ami René Lec. Très rapidement, à tour de rôle, les conclusions à tirer. Commençons par René. René, allez-y, rapidement.
Oui, Idrissa, écoutez, ça a été une très très grande surprise ce qui se passe. C'est sûr que les résultats ne sont pas encore finaux, mais j'ai l'impression que si Donald Trump gagne et que cela est confirmé, je pense que ça va l'être, les problèmes peuvent déjà commencer. Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, Hillary Clinton n'a pas l'intention de concéder sa défaite dans la nuit. John Podesta, son chef de campagne, le chairman de sa campagne, a demandé aux gens de rentrer et d'attendre demain, de se tenir à l'écoute. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je peux vous dire que déjà, je vois, je lis...
René,
pas mal. Oui.
Oui, alors je voudrais donner la parole aussi au professeur Ngemiya Lengui. Et il se trouve que Donald Trump est arrivé à son quartier général et on verra la suite plus tard. Alors... comment dirais-je, professeur Ngemiya Lengui, rapidement, les conclusions.
Bien, les conclusions, d'abord, merci à Idrissa et Timothée pour m'avoir invité. Les conclusions sont simples. Le système américain est tellement bien organisé que Donald Trump, il va devenir président. Et on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'il y a les institutions, il y a la balance du pouvoir entre l'exécutif, le Congrès et le législatif.
Le judiciaire, voilà.
Il n'y a pas de problème. L'Amérique est bien ancrée sur ces institutions.
Merci, professeur Ngemiya Lengui. Alors, professeur Edgar Colli, comme vous le voyez, je suis en train de...
Oui, une présidence Donald Trump, un congrès républicain, il faut faire attention à la Cour suprême, parce que nous allons avoir une Cour suprême qui pencherait beaucoup plus vers la droite, et certains acquis sociaux seront remis en question.
Merci, professeur. Alors, merci à tout le monde. Et avant de se séparer, Jean-Roger Bion, rapidement, ce que nous avons comme résultat.
Oui, dans l'escarcelle de Donald Trump, 264 grands électeurs, donc il est à seulement 6 grands électeurs de la victoire. Et Hillary Clinton a 215 grands électeurs. Donc, est-ce le signe que les carottes sont cuites? Je n'en sais rien. Mais Donald Trump est à son quartier général et de l'autre côté, Hillary n'y est pas.
Il ne lui reste plus que 6 voix, 6 grands électeurs. Et dans l'Arizona, il y a au moins, je crois, Tim, 11 grands électeurs dans l'Arizona. Et l'Arizona devrait normalement aller en républicain, tel a été le cas de tout temps, n'est-ce pas ?
Tout à fait, 11.
Alors, voilà, c'est tout pour cette édition spéciale consacrée à la présidentielle ici aux États-Unis. On ne sait toujours pas qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump sera le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis. Idrissa Sedudia, en compagnie de Timothée Donangmaye. Merci aussi à Jean-Roger Bion et à Anne Albertson pour la mise en onde. VOA Afrique, restez à l'écoute, voafrique.com.